7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, CV en toc et faux diplôme. C'est vraiment un phénomène mondial. Rien qu'en France, un quart des candidats mentent sur leur CV. 90% des candidats trouvent normal d'arranger un CV. Alors que veut dire arranger un CV ? Parce qu'il faut se vendre, disent-ils. Deux employeurs sur trois ne font aucun contrôle. Un recruteur sur quatre seulement demande à voir les documents originaux. D'ailleurs, dans mon entreprise, on n'a jamais demandé à voir mes documents originaux de diplôme. C'était il y a pas mal d'années, mais tout de même. Encore faut-il détecter les faux diplômes. En 2015, la moitié des faux diplômes des États-Unis provenaient de Chine. Nous parlerons aussi du récent scandale de faux diplômes au Pakistan, dévoilé par la presse américaine. Bref, le mensonge est-il omniprésent dans le recrutement? Et si oui, à qui profite-t-il vraiment? Et puis, quelle solution? Vérifier, sanctionner, enseigner l'éthique? Comment valoriser son parcours sans mentir? On donnera des conseils tout de même. Nous allons en parler avec nos invités. Emmanuel Chaumara, fondateur de Vérif Diploma. Bonjour.
Bonjour.
En gros, vous jouez au flic pour les recruteurs.
Ah non, on ne fait pas le flic, on qualifie l'information pour le recruteur.
Ça, c'est de l'enquête hein, pour les entreprises qui recrutent, en tout
Mais
cas.
C'est de la qualification d'information, c'est justement en toute transparence avec le candidat, et donc ce n'est pas à son insu.
Augustin Valero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé d'un cabinet de conseil en recrutement, Florian Mentionne Institut. Vous êtes à Montpellier en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Hérault. Et puis bien sûr, les voisins et les voisines, si vous nous écoutez, nous attendons vos points de vue, vos témoignages sur la situation dans votre pays. CV en toc et faux diplôme. Vous pouvez nous appeler surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux. Oumar, N'Djamena, au Tchad. J'ai menti sur mon CV avant de trouver mon premier emploi. Grâce à mon mensonge, je travaille depuis 2008 avec des ONG. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience et quand je dépose mon dossier, j'ai systématiquement un appel pour un entretien. Parfois, le mensonge aide à se lancer dans la vie active. Même son de cloche pour Fofana à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est important de mentir, nous dit Fofana, pour décrocher un boulot. C'est pas bien, mais ça marche. Et quand tu cherches du boulot, on te demande de l'expérience, donc je mens, c'est tout. Renault, à Parakou, au Bénin, les demandeurs d'emploi mentent sur leurs expériences professionnelles en falsifiant des attestations de travail, en complicité parfois avec certains DRH. Aziza, à Bujumbura, au Burundi, je connais quelqu'un qui avait fait des études d'infirmière, qui a fraudé pour travailler dans l'administration en prétendant qu'elle avait fait des études de management. Elle a tenu un an, elle a laissé un chaos indescriptible là-bas. Finalement, elle a été démasquée lors d'un contrôle de routine. C'est grave. Alioune, à Dakar, je n'ai jamais jugé nécessaire de mentir sur mon CV puisque tôt ou tard, tu te feras prendre comme un rat, que ce soit lors de l'entretien ou pendant le travail. Appelez-nous maintenant, on a envie de vous entendre de vive voix au 33 1 84 22 71 71. Emmanuel Chaumara, le phénomène des faux, des CV enjolivés, des faux diplômes a toujours existé. La tentation de mentir sur son CV, le trafic de faux diplômes. Alors, comment a évolué la situation ces dernières années ?
Alors, je crois qu'elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup accélérée, notamment avec le développement de l'Internet, de l'information. Effectivement, aujourd'hui, on est surinformé, on a plein d'informations disponibles sur Internet. Et aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a plein de formations qui existent. C'était pas le cas autrefois. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est accéléré énormément.
Les cas de figure qui reviennent le plus souvent.
Le cas de figure le plus souvent, c'est de l'imprécision dans l'information. Ce qui fait qu'effectivement, le recruteur qui doit réussir son recrutement à partir d'informations qu'il a qualifiées et qui va lui aider à prendre sa décision entre plusieurs candidats, eh bien, il est parti sur une mauvaise information et donc il va prendre une décision qui risque d'être mauvaise et qui risque de faire un recrutement qui va échouer plus tard.
Mais c'est quoi une imprécision dans le CV ?
Une imprécision, c'est sur les dates, c'est sur...
Date, elle est bonne ou elle est fausse, un chiffre ?
Non, parce que dans un parcours, les choses doivent s'expliquer normalement, quoi. Et donc, à un moment ou à un autre, si vous mettez des trous dans vos dates et que vous mettez des informations inexactes, c'est pour présenter votre information correctement, ce qui est normal, hein, parce qu'on est dans un contrat, quand on veut se faire recruter entre deux personnes. Mais en tout cas, si on veut que le contrat se passe bien, et c'est ça l'intérêt du recruteur, c'est qu'il y ait un recrutement qui soit efficace, pour que le contrat se passe bien, vaut mieux avoir des bonnes informations au départ, il y a moins de risques d'échec après.
Augustin Valero, vous avez le sentiment, vous, dans le recrutement, que tous les candidats ont tendance à confondre, savoir se vendre et enjoliver, pondre un CV trompeur?
Alors je dirais que... C'est pas tellement une tendance toujours voulue en fait. Hein. Souvent on se ment à soi-même et on en rajoute sur son CV. Comment j'appelle un CV trompeur, c'est un CV qui ne correspond pas à la réalité. Alors de nombreux candidats finalement vont soit enjoliver, soit cacher des informations par rapport à ce CV. Et du coup, de l'instant où vous avez un bon recruteur en face qui fait bien son travail, on va le voir. Le problème c'est que à partir de là, la relation se rompt avec le candidat. Mais je pense pas que ce soit toujours volontaire. Souvent, on nous donne des conseils qui sont pas bons. Hein. Il y a toujours des amis qui vous disent d'améliorer l'existant. On joue sur les dates.
Typiquement sur les langues aussi, hein, la maîtrise des langues étrangères. Hein.
Voilà, ça, il n'y a rien de plus simple que de... d'une part, il y a le diplôme affiché, bien sûr, le niveau de langue, mais il suffit de vérifier par un entretien en anglais ou en espagnol, et les choses se voient tout de suite.
Emmanuel Chomara, vous intervenez beaucoup à l'international, hein, dans votre entreprise Verif Diploma, 20% de l'activité se fait à l'étranger, des pays très différents.
Ah oui, c'est un phénomène mondial, avec une accélération dans le monde anglo-saxon depuis 5-6 ans. Quoi.
Oui. Est-ce qu'il y a des différences selon les pays?
Dans tous les pays, le phénomène existe. Donc aujourd'hui, la différence qui se fait, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que c'est systématisé, la prise de référence et de qualification de l'information avant un recrutement.
Enfin, systématisé, si l'entreprise est d'une taille suffisante pour payer des vérificateurs.
En fait, dans le recrutement, c'est assez professionnalisé, et donc on passe par des prestataires de services qui font cette prise de référence.
Parce que, en fait, quand les vérifications se font massivement, c'est pas très cher.
C'est toujours un coût, mais en fait après, si c'est pour gagner un recrutement et ne pas avoir d'échec, c'est un gain pour l'entreprise immédiatement.
Est-ce que vous diriez qu'encore aujourd'hui en Europe du Nord, par exemple, il y a davantage une culture de la transparence?
En fait, moi j'ai surtout le phénomène que dans le pays anglo-saxon, ce qu'on dit, on va le faire et on va le contrôler, on va le vérifier, et que nous, dans le monde latin, on a tendance à faire confiance qu'à la parole.
Ça, c'est du côté des recruteurs.
Voilà.
Mais vous voulez dire que dans les postulants, il y a autant de menteurs, quelles que soient les zones.
En tout cas, dans toutes les zones, oui, effectivement, le phénomène existe. Quoi.
Augustin Valero, vous partagez ce point de vue?
Oui, je suis d'accord. Alors après, c'est vrai qu'il y a des pratiques différentes. Si on regarde le sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, c'est des marchés qui ressemblent beaucoup au marché français. Les pays anglo-saxons, les pays du Nord, moi, je me souviens, mes premiers recrutements à l'international étaient liés à des recrutements d'Allemands, en fait. Et j'ai été surpris de voir à quel point, lorsqu'ils envoyaient leur CV, ils le complétaient par les diplômes, par des bulletins de salaire, enfin, des certificats.
Oui, en Allemagne, il me semble que pour candidater, un CV ne suffit pas. Il y a tout un dossier extrêmement complet. Je ne suis pas sûre que ça se fasse avec de manière aussi approfondie en France, non? CV daté, signé, le parcours du candidat, depuis l'école primaire, des attestations de diplôme, de stage, des attestations des anciens employeurs. Est-ce qu'on demande tout ça dans les entreprises en France, Emmanuel Chauvin ou Augustin Valero?
Alors, les cabinets, mon cabinet le demande systématiquement. Avec le CV, on demande une lettre de motivation, on demande les trois derniers bulletins de salaire, ce qui suppose que si je suis toujours en poste, mon dernier bulletin doit être du mois de juin, donc ça c'est de mai, pardon. On demande également les certificats de travail, les diplômes, et on fait des photocopies des diplômes au bureau directement. Donc on va assez loin dans la vérification, puisque après, par la suite, on appelle les anciens employeurs également.
Là, quand vous dites dans mon entreprise, quand vous êtes prestataire pour une entreprise qui souhaite recruter, mais toutes les entreprises qui recrutent ne recrutent pas avec cette même minutie.
Ah, pour nous, deux recruteurs sur trois ne vérifient pas qui est déclaré sur le CV.
Mais comment on explique ça, alors que la vérification est de plus en plus simple aujourd'hui?
En fait, on a plus en plus d'informations, donc c'est parce qu'on est perdu aujourd'hui dans l'information. Autrefois, il n'y avait pas de se perdre de repères. Hein. Quand les gens viennent de partout, sont mobiles à l'international, on fait plein d'expériences différentes, c'est tout d'un coup, et que vous pouvez en plus sur Internet avoir accès à l'information, donc vous avez l'impression en plus d'avoir la bonne information. Donc aujourd'hui, c'est plus quand même le phénomène qui accélère ce mouvement.
Mais culturellement, dans la mentalité des recruteurs, je pense à la France, mais à d'autres pays, un candidat qui termine sa période d'essai, par exemple, qui fait très bien l'affaire, si c'est un menteur, s'il a menti sur son CV, est-ce que dans le fond, ça pose vraiment un problème éthique à l'employeur?
Alors moi, ce qui se passe, c'est surtout qu'il peut y avoir des échecs après coup, la période d'essai, parce que après coup, vous apprenez 6 mois, 1 an après, des informations qui ne correspondent pas à ce que vous pensiez au moment où vous aviez recruté la personne, et là, la confiance peut se briser. comme disait, quand c'est en amont, au moment des entretiens, il a très bien dit tout à l'heure, si ça, on commence à apprendre ça, ben en fait, le candidat, il est mis de côté. Mais imaginez qu'on a recruté, on a commencé la relation ensemble, et vous apprenez 6 mois, 1 an après, que votre fournisseur, que votre client, et là, c'est votre salarié, et les informations qu'il vous a données n'étaient pas exactes. Il risque d'avoir un problème de confiance et vous risquez d'avoir un échec dans le recrutement.
Mais Augustin Valero, est-ce que pour les recruteurs, le mensonge, c'est une forme d'incompétence, dans le fond ?
Dans le fond, oui. Je pense que dans ce qu'on appelle la compétence, on va avoir le savoir, c'est-à-dire vos connaissances, le savoir-faire, vos expériences et le savoir-être. Le mensonge, pour moi, est une incompétence relationnelle, finalement. C'est-à-dire que dans la relation que l'on a à l'autre, et on peut projeter ça après au niveau professionnel, on aura tendance à mentir. Et c'est clair qu'un employeur qui, lui, a le sentiment de faire confiance à quelqu'un et qui se retrouve face à une personne qui, au bout de quelques mois, finalement, a bidonné ses diplômes, je confie en ce qui vient d'être dit, en fait. La confiance va être rompue dans les relations au travail. C'est très important.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, nous parlons des CV largement enjolivés et des faux diplômes, 33 1 84 22 71 71. Si vous êtes recruteur dans votre pays aussi, votre témoignage nous intéresse. Comment vous faites pour déjouer les pièges des CV? Quelles conséquences aussi sur votre entreprise, ce mensonge omniprésent? 33 1 84 22 71 71. Chez 7 milliards de voisins sur RFI, nous parlons de ces CV en toc et de ces trafics de faux diplômes, un phénomène international. Tous les continents sont touchés, les entreprises en prennent conscience, les candidats n'ont pas toujours beaucoup de freins pour se vendre sur le marché du travail, un marché du travail de plus en plus en tension aussi. Et vous nous appelez pour témoigner du phénomène ou si vous êtes un recruteur, votre témoignage est d'autant plus intéressant aussi. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Peggy qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Peggy.
Bonjour Emmanuel.
Peggy, alors vous êtes assistante juridique, hein, je crois, aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Oui.
Vous avez menti sur votre CV ?
Oui, pas menti. Changer certaines petites choses, oui.
Ah, vous avez changé certaines petites choses, c'est-à-dire ?
Oui. En fait, chez moi, on demande de l'expérience professionnelle. C'était pas au niveau des diplômes. J'avais des diplômes, mais il fallait une expérience professionnelle. Jeune diplômé, je sortais, je pouvais pas m'attendre à un travail parce que toutes les entreprises où je cognais, on demandait 2 ans d'entreprise minimum. Parfois, quand c'était peu, c'était 1 an. Alors, étant jeune diplômé, avec juste les stages, j'ai fait des stages, mais je n'étais pas des expériences professionnelles. Du coup, au lieu de dire stage professionnel où j'avais fait des stages, j'ai plutôt mis expérience professionnelle, que c'était un travail.
Oui.
Donc, c'est ça que j'avais changé.
Vous avez mis expérience au lieu de stage. Vous avez menti sur la durée aussi ou pas?
Non, la durée, c'était la même. Mais c'était parce que j'avais mis beaucoup de temps. C'était une entreprise que de quelqu'un que je connaissais. J'ai cumulé. Je voulais pas rester à la maison, alors j'ai cumulé les 3 mois de stage, 3 fois.
Oui.
Au lieu de mettre 9 mois de stage.
Ouais. Mais ceci dit, c'est une expérience professionnelle. Sauf que vous n'étiez pas rémunéré, c'est ça?
Non. C'était pas rémunéré, c'était plus stage. Parce que dans mon contrat, on parlait de stage de 3 mois, après 3 mois. Mais c'était pas expérience professionnelle.
Le patron qui vous a recruté a vérifié ou pas?
Non. En fait, non, il ne vérifie pas souvent.
Il vous a fait confiance.
Peut-être des fois, mais oui.
Bon, merci pour ce témoignage, Peggy. Aujourd'hui, donc, vous avez un travail grâce à votre mensonge. C'est comme ça que vous voyez les choses?
Non, pas grâce à mon mensonge. Disons plutôt que j'ai dû un peu viser pour obtenir quelque chose que j'aurais dû avoir le droit, en fait.
Ouais.
Parce que c'est pas tellement juste d'imposer 2 ans d'expérience alors qu'on ne donne pas de chance aux jeunes diplômés.
Emmanuel Chomara, ça c'est quand même un problème qui revient souvent sur le continent africain, mais pas seulement d'ailleurs, pour les jeunes diplômés qui ne peuvent pas justifier de suffisamment d'expérience professionnelle.
Oui, après c'est par rapport au problème de compétences, c'est ce que demande l'entreprise en termes de compétences pour exercer l'emploi après. Donc si elle arrive à bien exercer ses compétences aujourd'hui et que ça fonctionne bien et pour elle et pour le recruteur, on est tous contents parce que ça réussit. Ce qu'il faut voir, c'est que quand nos gens livrent trop les informations, à un moment ou à un autre, ça risque de poser un problème de compétence. Et une fois que vous allez être recruté, ça pose un problème. Si vous allez enjoliver sur le niveau de langue et que le niveau de langue est vraiment important, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça va pas se passer. Donc en fait, à la fin, il va y avoir un échec. Donc ça, c'est coûteux pour le candidat et pour l'entreprise. Donc nous, on essaye de favoriser que les recrutements soient réussis.
Augustin Valero, un recruteur qui fait confiance et qui ne vérifie pas, là en l'occurrence, il suffisait de passer un coup de téléphone à la personne pour vérifier qu'il s'agissait pas d'une réelle expérience professionnelle, même si en fait elle a acquis des compétences aussi de cette façon-là. Donc un mensonge.
C'est un tout petit mensonge. Oui. C'est finalement transformer un stage en expérience. En fait, pour moi, un stage, c'est une expérience.
Voilà.
On peut même l'afficher clairement et marquer ce stage comme une expérience.
Est-ce qu'il n'aurait mieux pas valu finalement dire oui, c'était un stage, mais voilà ce que j'ai acquis, voilà ce que j'ai appris, et vous pouvez considérer que c'est une réelle expérience professionnelle.
Si on avait
un manque de confiance.
Et si on avait appris la référence et qu'on aurait appris qu'il y a un stage, c'est pas pour ça qu'on l'aurait pas recruté.
Voilà.
On l'aurait appris, on aurait su très bien, et donc la relation aurait été encore plus forte. Parce qu'en fait, on passe sur des bases de confiance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle que vous n'avez pas recruté la personne.
Donc,
si elle est compétente et tout, ça vous renforce dans votre relation.
Les candidats n'ont pas confiance aussi en eux-mêmes, en ce qu'ils ont acquis et dans les recruteurs.
Alors voilà. Oui, ce qu'il faut savoir quand on est candidat, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour savoir si cette personne correspond ou pas au profil, c'est le candidat lui-même en fait. Par rapport à l'expérience demandée, par rapport aux compétences demandées, on doit se positionner en tant que candidat, et si on est sûr de son coup, il n'y aura aucun souci, on n'aura pas besoin de mentir. J'insiste là-dessus parce qu'on a l'impression que ça échappe au candidat finalement, l'adéquation par rapport à un profil. Cette jeune fille avait l'impression de correspondre au profil, elle a joué sur une expérience qui n'était qu'un stage. En fait, en effet, si j'avais vérifié cette expérience, j'aurais été certainement j'aurais eu des recommandations de la part de son ancien employeur et je l'aurais recruté, tout à fait.
Vous restez avec nous, Emmanuel Chomara, Augustin Valero. Là, on a parlé beaucoup des CV enjolivés. On a beaucoup de témoignages sur le sujet. D'ailleurs, il y a aussi un autre sujet qui est plus inquiétant, c'est le trafic de faux diplômes qui commence franchement maintenant à soucier, d'ailleurs, pas seulement les employeurs, mais également les universités qui en sont victimes, Emmanuel Chomara.
Oui, c'est un vrai problème pour la marque.
Quand on usurpe une marque.
Oui, exactement.
Quand les faux diplômes ne sont pas des pures créations, de pure fiction et des universités qui n'existent pas. On va d'ailleurs voir l'exemple du Pakistan dans 3 minutes juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, CV bidon et faux diplômes. Quelle solution aussi pour assainir un marché de l'emploi de plus en plus mondialisé, sous tension, avec des phénomènes qui ne font que s'accentuer ces dernières années, notamment aussi avec les facilités octroyées par les nouvelles technologies, de plus en plus simples, entre guillemets, de fabriquer des faux diplômes. Certains pays sont-ils plus efficaces pour décourager les fraudeurs, les menteurs? Faut-il durcir les sanctions ou se contenter déjà peut-être de les appliquer? On en discute avec nos invités. Emmanuel Chomara, fondateur de Vérif Diploma. Donc, c'est une entreprise qui fait de la vérification de CV. Non pas, vous nous le disiez en première partie d'émission, dans le dos des candidats, mais en toute transparence, à la demande des recruteurs. Augustin Valero, vous êtes directeur associé d'un cabinet de conseil en recrutement. Florian mentionne Institut, qui fait régulièrement des enquêtes auprès des recruteurs aussi pour mieux savoir quel est leur ressenti par rapport au CV enjolivé, etc. et quelles sont leurs incertitudes sur le sujet. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, 33 1 84 22 71 71. Dites-nous quelle est la situation dans votre pays et quelles sont, à votre avis, les conséquences de ces mensonges, de ces tricheries sur la vie économique, sur les entreprises. Appelez-nous si vous êtes chef d'entreprise aussi, si vous avez des difficultés pour recruter, et puis aussi quelles solutions. Voilà, 33 1 84 22 71 71. Dans l'immédiat, gros plan sur un scandale de faux diplômes sans précédent au Pakistan, qui a été révélé par une enquête du New York Times le mois dernier. Nous sommes en ligne avec Gaëlle Lucia Berdou. Bonjour.
Bonjour.
Gaëlle, vous travaillez comme correspondante au Pakistan, même si vous êtes aujourd'hui à Montréal. Que faisait exactement Gaëlle Axact, la société de télécommunications incriminée dans ce scandale de faux diplômes au Pakistan?
Alors, si on en croit l'enquête du New York Times, qui a parlé notamment à plusieurs anciens employés de l'entreprise, Axact gérait des centaines de sites internet de fausses universités ou de faux lycées aux noms à consonance connue pour certains comme Berkeley, Columbiana, Harvey. Ce sont des sites très élaborés avec des photos, des vidéos promotionnelles d'employés, d'étudiants qui sont en fait des acteurs. Et les clients partout dans le monde, y compris des Américains qui se sont fait prendre, commandaient des diplômes de ces fausses institutions. Alors, beaucoup savaient qu'ils achetaient un faux document, mais plusieurs ont aussi témoigné qu'ils avaient payé pour des formations académiques qu'ils n'ont en réalité jamais reçues. Et pire encore, les utilisateurs décrivent des coups de fil de pression, voire de harcèlement, même de la part des employés pakistanais d'Axact, qui sont basés dans des centres téléphoniques à Karachi, entre autres, employés qui pouvaient se faire passer pour des représentants du gouvernement américain ou des avocats et qui essayaient de les convaincre apparemment de payer à nouveau une fois que le diplôme était acheté pour d'autres services de toutes sortes, des formations encore ou des certificats d'authentification. Bref, c'était un système vraiment très élaboré et apparemment surtout très très rentable.
Combien de personnes ont succombé à ces offres malhonnêtes?
Alors des milliers, toujours selon le New York Times, plusieurs avaient acheté ces faux diplômes pour obtenir une promotion. On cite le cas d'une infirmière d'Abu Dhabi qui aurait dépensé 40 000 euros pour un diplôme de médecine. Et plusieurs cas aussi rapportés de jeunes Américains qui avaient besoin eux d'un diplôme d'études secondaires pour pouvoir par exemple s'engager dans l'armée américaine, partir en Irak ou en Afghanistan. Alors certains ont payé dans le vide, comme je le disais, des formations qui ne se sont pas matérialisées, et il y en a qui ont même perdu leur emploi quand la supercherie a été découverte. D'autres se sont carrément retrouvés ruinés. Alors on a vu dans le passé des exemples, des moments où de fausses institutions liées à Axact ont été inquiétées par les autorités, voire poursuivies même aux États-Unis, mais jamais jusqu'ici on avait réussi à établir le lien entre cette entreprise pakistanaise de télécom et ces affaires-là.
Une entreprise pakistanaise qui a pignon sur rue, rappelons-le. Quelles sont les conséquences de cette affaire au Pakistan, Gaëlle?
Non seulement cette entreprise a pignon sur rue, mais c'est vraiment un fleuron de télécom pakistanaise. Alors l'affaire a fait énormément de bruit sur place. Et devant l'ampleur du scandale, les autorités ont lancé plusieurs enquêtes. Le PDG de l'entreprise, Soheb Ahmed Sheikh, a été arrêté. Les bureaux ont été placés sous scellé, le matériel informatique a été saisi. Et dans les bâtiments, les autorités ont apparemment retrouvé des milliers de pages de papier en tête de ces universités fictives, centaines d'universités. Alors l'entreprise se défend, elle parle d'accusations sans fondement, de diffamation. Pardon, mais le scandale pendant ce temps-là continue. ces derniers jours, il y a eu de nouvelles révélations. On a appris que l'entreprise serait à l'origine d'une vingtaine de sites pornographiques. Et c'est un sujet, bien entendu, très délicat dans la République islamique du Pakistan. Mmh.
D'accord, une affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Gaëlle Lucia Berdou. Que vous inspire l'affaire pakistanaise? Il y en a d'autres, hein, Emmanuel Chomara.
En fait, il y a 10-15 ans, nous, quand on a commencé notre activité, c'était au départ des simples sites Internet où on pouvait commander son diplôme de l'université américaine, en France, partout. D'ailleurs, pas mal d'universités françaises étaient sur ces sites. Bon, ces sites ont fini par fermer. On avait réussi à les faire fermer. Et donc ça s'est arrêté, ce phénomène. Et maintenant, le phénomène dont est écrit là au Pakistan, c'est vrai qu'on l'a eu en Angleterre, très, très important depuis 24-48 mois, où effectivement beaucoup de fausses universités existent. Mais maintenant, le système va plus loin, parce qu'effectivement, il y a un site Internet, il y a un numéro de téléphone, on peut appeler, prendre des références, mais tout ça est totalement inventé. Donc si vous ne savez pas qu'au départ, cette université n'existe pas...
On va tomber sur un standard avec quelqu'un qui vous répond.
Voilà. Donc ça, ce phénomène, et nous on le connaît depuis un an, deux ans, on l'a eu aussi une fois à Hong Kong récemment. Quoi. Donc effectivement aujourd'hui...
Comment vous faites alors justement pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une université fictive?
C'est d'avoir le référentiel.
Il y a tellement d'universités dans le monde entier maintenant.
Ah non, nous on a des référentiels sur chaque pays, quoi. Donc, dans mon référentiel, je sais que l'université Dauphine en France existe et c'est pas une université où j'ai appris. Donc, en fait, nous, c'est à partir des sources d'informations.
Une nouvelle école de commerce privée en Afrique subsaharienne. Comment faites-vous pour vérifier, par exemple?
Nous, on a des contrats avec les.
Nous, c'est des contrats qui sont parfaitement légaux.
Alors, en fait, nous, on doit toujours vérifier la source de notre information. Et si on prend le cas du continent africain, c'est vrai que pour nous, c'est la difficulté souvent, c'est qu'on n'est pas sûr de notre source d'information, donc on peut pas valider l'information. Donc en fait, notre métier part d'abord d'avoir identifié la source et que cette source est de qualité et demain, on pourra faire des vérifications.
La source, ça peut être quoi? Le ministère de l'Enseignement supérieur, par exemple,
voilà, le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut dire que nous aussi, maintenant, on fait partie, alors notamment pour l'Afrique, parce que l'Afrique du Sud est en train d'y participer. On fait partie de Groningen Déclaration, qui est un réseau mondial qui va pour la portabilité numérique des étudiants et qui permet justement à chacun dans chaque pays, puisque dans chaque pays l'éducation est souvent quelque chose d'assez compliqué. Donc on est par exemple nous en lien aujourd'hui aux États-Unis avec la National Clearinghouse qui référence toutes les universités américaines. Au Chine, c'est extrêmement très très cadré. Vous avez le CESIC. Donc aujourd'hui nous on travaille pour le CESIC et le CESIC en Chine contrôle totalement tous les diplômes.
Qu'est-ce que c'est exactement le CESIC?
C'est un organe public du gouvernement qui valide tous les dossiers des étudiants. Et les étudiants chinois qui vont aller faire des études en France, s'ils veulent demain se faire valider en Chine leur diplôme qui a été fait à l'étranger, il faudra qu'ils passent par le CESIC, qui va travailler avec des sociétés comme nous pour valider qu'effectivement il a bien fait telle formation. Parce que la conclusion de ça, c'est que demain, lui, il peut avoir un salaire plus élevé en Chine et tout ça. Donc eux, ils vont contrôler et font un dossier vraiment fait par le gouvernement. Et de la même manière, un chinois qui va faire des études, enfin, des étrangers qui viennent faire des études en Chine, ils feront la prise de référence dans le pays d'origine pour avoir ces informations. Donc aujourd'hui, on travaille en réseau avec toutes ces universités. Et en Afrique du Sud, il y a une société qui est en train de se développer avec le gouvernement sur ce sujet de
sans les gouvernements, rien ne peut avancer sur ce sujet-là.
Il faut que la source devienne publique. Hein, donc forcément, on travaille avec des sources publiques à un moment ou à un autre. Quoi.
Augustin Valero.
Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que finalement, ce phénomène qui est mondial montre bien que les candidats eux-mêmes trouvent normal de tricher en fait. Notre dernière étude, la septième que nous avons faite, montre, c'est un questionnaire qu'on a posé à nos candidats et 90% déclarent normal d'arranger leur CV. Donc dans le mot normal, il y a des CV exagérément modifiés, d'autres juste améliorés, mais on a l'impression qu'il n'y a rien que les recruteurs ne vérifient pas, et l'exemple qui vient d'être montré à l'instant montre que oui, de plus en plus d'organismes existent. Après, vous connaissez la fameuse affaire de l'aéroport de Limoges, en fait, hein, l'ancien DG qui a occupé sa fonction pendant 2 ans et qui avait bidonné son diplôme de pilote de chasse. Ça a été pareil pour Yahoo. Hein,
un an de prison ferme et un an avec sursis pour le directeur de l'aéroport de Limoges.
Exactement. Donc on voit les conséquences aujourd'hui et de plus en plus des entreprises s'organisent, en fait.
Enfin, on voit les conséquences. Où est-ce qu'on en est des sanctions aujourd'hui? Existent-elles? Sont-elles appliquées en France?
Il y a une différence entre votre auditeur qui a arrangé son CV pour deux stages avec une expérience de quelqu'un qui a totalement voté, qui va faire prendre des risques à l'entreprise et qui risque peut-être de faire
Il s'agit de risques mortels pour un diplôme un faux diplôme de pilote notamment et pour la direction d'un aéroport.
L'exemple qu'on prend souvent, c'est la médecine. Est-ce que c'est normal
pour un directeur commercial, il n'y a pas de risque mortel s'il a présenté un faux diplôme? Quelles sont les sanctions dans ce cas-là?
Il peut faire prendre des risques pour l'entreprise tous les jours.
Alors, les sanctions sont rarement, si vous voulez, c'est plutôt le problème de la rupture du contrat de travail. travail, c'est le temps perdu à avoir un candidat dans son entreprise qui finalement n'a pas fonctionné, n'a pas occupé la fonction pour laquelle on l'avait recruté, c'est de l'argent perdu au niveau de la formation, éventuellement un prud'hon derrière, c'est-à-dire un procès, et là on sait que ça coûte très très cher aux entreprises. Je pense que il faut se rendre compte que le fait de tricher ne va pas forcément impliquer derrière une sanction, mais que un jour ou l'autre, lorsqu'on se fait attraper, on perd son job et on perd son salaire, on se retrouve dans des situations difficiles, on perd la crédibilité vis-à-vis du marché de l'emploi. Au prochain coup que je recevrai un appel pour vérifier la référence de ce monsieur, je dirai clairement non, c'est un tricheur. Voilà, ça c'est l'impact réel.
Ouais. Mais pour terminer sur les sanctions, vous êtes pour le durcissement des sanctions ou pas tous les deux?
Les sanctions, c'est surtout quand c'est l'exercice, enfin le mensonge a été une condition sine qua non de l'exercice de la profession, et dans ces cas-là, effectivement,
normalement, ça induit quoi? La nullité du contrat du travail pour le fraudeur, le licenciement du salarié s'il a produit un faux diplôme.
Mais c'est rare, hein,
effectivement. C'est rare.
On le met en place rarement.
En fait, c'est surtout l'échec du recrutement et la fin, ça se passe mal et vous finissez, et donc c'est un échec pour tout le monde.
Oui, mais enfin, on peut pas dire que ça soit une sanction très dissuasive.
Pour recruter, oui, c'est pas très dissuasif, mais en tout cas, demain, pour vous, sur le marché du travail, vous partez avec un moins.
C'est pas dissuasif parce qu'en fait, on a l'impression que les recruteurs ne font pas leur travail de vérification. Mais vous verrez que les choses évoluent. De plus en plus, vous avez Internet. Les gens, les recruteurs vont sur Google, tapent les noms des candidats. On voit bien qu'il y a différentes versions de CV. Enfin, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de raconter des histoires.
Aujourd'hui, tout n'est pas en libre accès. C'est d'ailleurs peut-être, est-ce que ça vous arrange l'un et l'autre, si on veut vérifier le diplôme de quelqu'un, un diplôme, je ne sais pas, moi, de la Sorbonne, il y a 10 ou 15 ans, c'est très difficile, non?
Oui, c'est très difficile.
On n'a pas accès au PDF avec les listes d'admission, etc.
Non, c'est pas une information publique, c'est l'information de l'établissement du candidat.
Vous, évidemment, vous y avez accès, vous, Emmanuel
Chomara. On a accès, mais avec l'autorisation du candidat, sinon j'ai pas accès.
D'accord.
Sinon, il faut toujours qu'il y ait l'autorisation du candidat qu'on prenne le contrôle de son diplôme.
Sinon, l'université ne vous fournirait pas ces listes, par exemple.
Surtout pas, oui. Mmh. Oui.
33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de région parisienne, de Paris. Bonjour Faudet.
Bonjour Emmanuel, vous allez bien?
Oui, nous vous écoutons.
Oui, d'accord. Alors, en fait, moi, pour accéder à un boulot, le boulot, il demandait un certain niveau. Et il s'avère que j'avais un niveau au-dessus, donc j'ai dû enlever certaines lignes pour pouvoir être à niveau de ce boulot-là, pour avoir
l'emploi. Vous pouvez être plus précis, Faudet?
C'est-à-dire que, par exemple, j'étais à la recherche d'un emploi à l'aéroport. C'est dans la mécanique, en fait. C'est pour montage, démontage des moteurs. Et il s'avère qu'un bac pro aéro suffisait, et non pas la mention complémentaire et le diplôme des sciences et technologies spécialement aéronautique que j'avais.
Ouais.
Le boulot ne demandait pas d'avoir autant de diplômes.
Ouais.
Donc si j'avais autant de diplômes et que donc ils pouvaient pas me prendre, donc il fallait que je m'aligne, donc j'ai dû enlever tout ça.
Enfin, c'est pas qu'ils pouvaient pas vous prendre, c'est que vous auriez pu prétendre à un salaire plus élevé, et probablement que ça aurait pu dissuader le recruteur, c'est ce que vous voulez dire?
Non, ils disent que j'aurais pu partir à un moment donné, être dans les bureaux ou dans le cadre ou tout ça, et moi ce que je cherchais c'était plutôt avoir un emploi, j'avais 25 ans à cette époque, et qu'il me fallait absolument un boulot.
Attendez, vous êtes tous au fin fraudeur, Faudet, vous êtes trop diplômé, c'est tout, non?
J'étais au niveau dessus et ils n'avaient pas besoin, donc j'avais décollé tout ça.
Faudet, la ligne se dégrade. Merci en tout cas de nous avoir appelé. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des candidats qui, ça peut sembler incroyable, mais qui minimisent parfois leur CV pour être moins impressionnant pour les recruteurs. Vous confirmez l'un et l'autre, hein?
Ah oui, moi je confirme, c'est triste, malheureusement, mais c'est une stratégie de certains candidats qui ont fait de longues études et qui ont des difficultés à trouver un job correspondant à leurs compétences, en fait.
33 1 84 22 71 71, vous pouvez nous appeler. Je sais qu'il y a plusieurs... Tiens, je voudrais lire peut-être le témoignage de Tidiane Atiès qui dit, moi je pense que valoriser les parcours, c'est bien mieux que de mentir sur son CV. Je préfère vendre les mérites des missions confiées, tout dépend de la manière dont on les décrit. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation en général, on enseigne suffisamment une forme d'éthique, finalement, l'un et l'autre, qu'en pensez-vous ?
Moi, alors, je vais répondre en tant que, par rapport à mon expérience professionnelle, donc ce que je vois au quotidien, l'enseignement supérieur ne prépare pas les candidats à affronter le marché de l'emploi. En tout cas, pas suffisamment. Il y a des interventions de professionnels, il y a des cours qui évoquent des cours de GRH qui évoquent le marché du recrutement. Mais justement, le problème, c'est que face à ce manque d'informations, ben, on se contente de mettre en place des stratégies de modification de CV, alors qu'on devrait nous apprendre plutôt à valoriser des expériences, des stages, à mettre en avant des réussites. Et c'est pas ce qui est fait aujourd'hui.
Question à Emmanuel Chomara. On est vraiment entré là dans une ère très technologique. Est-ce que les faux diplômes, les CV un peu truqués, etc., vont pouvoir perdurer aussi massivement et aussi longtemps?
Ah, je pense que effectivement, comme l'information vient de partout, on a du mal à la contrôler. Mais aussi aujourd'hui, avec la technologie, ça nous amène effectivement des solutions avec les recruteurs qui nous permettent maintenant de bien contrôler, bien vérifier les informations. Donc aujourd'hui, de moins en moins, il sera facile quand même pour un certain nombre de candidats.
Vous pouvez détailler un peu ces solutions, tout de même.
En fait, c'est tout simple. Nous aujourd'hui, on a monté un nouveau service qui s'appelle Checkit. Donc, il y a par exemple pas que le diplôme, mais qui est tout le CV où on va scanner effectivement tout le CV. Et il suffit d'envoyer. Il est scanné, mais envoyé sur notre plateforme. On va demander de manière électronique l'autorisation au candidat qui va recevoir sur sa boîte mail. Il va signer une autorisation et je vais faire la prise de référence.
Il va dire oui parce que sinon il va même pas passer ses entretiens.
Oui, enfin là on pourrait dire qu'effectivement dans le monde anglo-saxon j'ai 100% de réponse très rapide. Dans un monde latin, un certain nombre s'oppose à l'autorisation. Vous voyez.
Pourquoi? Alors, parce que
données personnelles. On a toujours du mal avec ce sujet. Pourquoi vous avez besoin de demander tout ça? Il y a un aspect culturel vraiment qu'on sent bien.
On n'est pas sur un CV uniquement des compétences professionnelles. On ne parle pas de la vie privée.
Oui. Après on lui explique. Après il va nous donner l'autorisation. Mais on a quand même 20-30% des cas où tout d'un coup on a un candidat qui veut dire pourquoi vous me demandez signer cette autorisation.
Qu'est-ce que vous faites ensuite avec ce CV scanné? Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire?
Donc le CV scanné, on a pris l'autorisation avec les points qu'on va vérifier sur son CV et à ce moment-là,
les points. Donc chaque ligne du CV, c'est ça?
Oui, mais on peut contrôler 3 points comme 15 points sur un CV. Il y a beaucoup d'informations. Donc notamment, par exemple, on peut dire voilà, je vais vérifier les 3 précédentes références professionnelles et les références. Qu'est-ce que je vais contrôler dans la référence? Quel poste vous exercez? Quelles sont vos dates d'entrée, date de sortie? Quel était votre salaire? Voilà, donc je vais dire avec lui et il va me donner les contacts de son entreprise, de son employeur que je peux appeler pour prendre ses références. À ce moment-là, on appelle l'employeur et on met ça dans des...
Quel est l'apport de la technologie là-dedans?
Parce qu'en fait, tout se fait d'une manière dématérialisée. Et donc, tout se fait entre le candidat, l'entreprise et nous d'une manière totalement dématérialisée. Et tout est traçable, tout est bien enregistré.
Mais vous continuez à appeler l'employeur précédent, par exemple?
Ça, le coup de téléphone du consultant est indispensable, oui.
Bien sûr, pour s'assurer que ce qui est déclaré correspond à la réalité. Oui. Le management de X personnes, des chiffres d'affaires réalisés pour les commerciaux, les durées, les fonctions réelles aussi, les postes occupés. Est-ce qu'il était responsable commercial ou directeur commercial? Voilà, des choses comme ça.
Et avec la technologie, vous faites des rapports automatiques, donc ça arrive directement dans l'entreprise. Donc en fait, tout ça est dématérialisé et donc permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc de professionnaliser son recrutement.
Nous sommes en ligne avec Mario qui nous appelle d'Antananarivo à Madagascar. Bonjour Mario. On a un petit problème de... Merci. Vous nous entendez Mario? Vous êtes à l'antenne en direct chez 7 milliards de voisins.
Ah, je vous entends. Mon histoire, c'est que pour décrocher un entretien, j'ai mis sur mon CV que je parlais chinois. Allô?
Oui.
Allô?
Oui, nous vous écoutons, Mario.
Ah, j'ai mis sur mon CV que je parlais chinois et tous les candidats avaient à peu près les mêmes diplômes. Ils ont été impressionnés du fait que je parlais chinois, ils étaient les seuls à être appelés, mais alors que je parlais même pas chinois. Et après, je stressais au boulot et après, j'ai pris quelques cours de chinois et ils m'ont pris, j'ai réussi l'entretien, ils m'ont pris, mais c'est que j'ai été pris grâce au fait que j'ai écrit que je parlais chinois alors que je parlais même pas chinois.
Mais vous avez besoin de parler chinois dans votre travail ou pas du tout?
Oui, on a vu. Ils avaient besoin de quelqu'un qui parle chinois, mais à vrai dire, ils n'ont pas vraiment eu besoin. C'était juste pour sélectionner les candidats.
Ah oui, d'accord, c'était un critère de plus finalement.
C'est une stratégie, c'est normal, pour se faire recruter, il y a des stratégies à avoir. Donc c'est comme quand vous voulez conclure des conclats avec des clients, avec des prospects, vous avez des stratégies pour gagner un nouveau client. Bah, pareil, le candidat, pour se faire employer, il va appliquer des stratégies. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Moi, après, à un moment ou à un autre, si on va trop loin dans les informations et qu'on doit les prises, mais ça n'a rien à voir avec la stratégie. Là, il a une stratégie, elle a été payante, bravo pour lui.
N'oublions pas qu'il a pris des cours de chinois après, c'est le plus important. Et ça a marché, ça veut dire que c'est un garçon intelligent qui a vite assimilé ce qu'il fallait assimiler.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Aujourd'hui, il y a eu des annonces du premier réseau social professionnel LinkedIn qui veut en gros breveter de la vérification de CV en ligne pour vérifier l'exactitude des informations en les comparant à des informations sur Internet. Est-ce qu'on pourrait arriver à des à vraiment de la vérification industrielle sur la toile aujourd'hui?
Alors, je crois pas tellement à leur big data, là, tel qu'ils l'ont annoncé, mais eux, ils sont obligés aujourd'hui de l'annoncer, parce qu'effectivement, dans le réseau professionnel, et notamment LinkedIn, qui est bien utilisé dans le réseau professionnel et du recrutement, tout le monde reconnaît, tout le monde dit déjà aujourd'hui qu'effectivement, les informations qu'on a en ligne sur LinkedIn, c'est ce que je veux bien donner de moi. Donc, c'est pas forcément la réalité derrière, quoi.
Oui, les pages LinkedIn qui sont évidemment là aussi, tout le monde se raconte comme il a envie. C'est comme, comme Facebook,
Toutes les fausses. Il y a vraiment des fausses complètement inventées, Donc, attention.
Oui. Augustin Valero.
Oui, tout à fait. Je dirais que les réseaux sociaux sont un super moyen de se faire connaître, mais voilà, on sait que c'est du déclaratif, on joue un rôle. Le jour où l'ensemble, d'une part l'éducation, enfin l'ensemble des ministères de l'éducation auront un outil commun et on pourra afficher réellement ces choses sur Internet ou sur tel ou tel site, bien sûr, ce sera une avancée formidable. Mais alors, au niveau mondial, je ne sais pas si on va y arriver.
Parce que
je pense que tous les pays n'accordent pas autant d'importance à cette problématique des diplômes, et que il y a des problèmes plutôt administratifs qui font que c'est très long à mettre en place. Et il vaut mieux avoir en face des structures privées comme Vérif Diploma qui vont eux mettre en place des partenariats. Enfin, spontanément, c'est pas les ministères qui vont.
En fait, on a un problème de légal au départ, et c'est partout dans le monde entier, c'est qu'on ne sait pas si l'information appartient au candidat, mon diplôme, ou si elle appartient à l'établissement. Voilà. Donc en fait, il y a un vrai problème juridique dans le monde entier. Donc effectivement, dans chaque pays, on essaye de s'organiser. Et après, c'est plus ce réseau mondial qui est en train de se monter, où c'est eux, entre eux, ces sociétés, qu'on va pouvoir vérifier
ces informations. Du côté des recruteurs, des entreprises, comment évoluent les mentalités?
Moi, je pense que... alors, c'est vrai que... il y a quelques années, il n'y avait aucune vérification. C'est clair qu'on partait sur du déclaratif, et avec une belle prestation d'entretien, on arrivait à s'en sortir. Et quelque part, les problèmes étaient rares. Mais on s'est aperçu peu à peu qu'avec Internet aussi, la vérification des profils sur les réseaux sociaux, il y a des décalages entre ce qu'on voit sur le CV et ce qui est affiché par ailleurs. On a quand même de plus en plus d'entreprises qui élèvent aussi le niveau attendu par rapport au profil. Donc c'est sûr que moi, ce que j'observe, c'est que oui, il y a une tendance à améliorer l'existant, parce que l'on pense qu'il n'y a pas de vérification, mais de plus en plus d'entreprises s'y intéressent, parce que c'est comme la qualité, en fait, ou la traçabilité des produits.
Mais finalement, est-ce que les recruteurs ne sachant plus comment choisir, on sait que les DRH aujourd'hui reçoivent, et pas seulement en France, mais ailleurs, des centaines et des milliers de CV pour un seul poste, et dont une partie part à la poubelle.
Est-ce
que les recruteurs ne sont pas en train d'être pris à leur propre piège, finalement, en augmentant poussant les candidats à frauder?
De toute façon, nous, ça, on le fait, les recruteurs, ils le font juste pour la personne qui est retenue ou les deux, trois personnes en shortlist, vous voyez. Vous n'allez pas faire ça sur un ensemble de candidats, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est vraiment quand vous êtes en négociation finale, donc c'est surtout même sur la personne que vous recrutez qui est important.
Oui, mais
pas
le témoignage de Mario, il était intéressant, finalement, à Madagascar, en disant, oui, moi, j'ai mis un petit truc de plus, qui était un mensonge, mais est-ce que ça ne pousse pas les candidats à s'inventer quelque chose sur un CV pour faire la différence?
Alors oui, mais encore une fois, le problème, c'est une fois en poste, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai besoin de parler chinois et que je maîtrise pas le chinois, c'est une catastrophe pour ce pauvre garçon qui va devoir quitter son entreprise la queue entre les pattes, je dirais. Mais c'est vrai que il a eu l'intelligence derrière de faire sa formation, mais Mario, il a juste anticipé une compétence qu'il allait acquérir, on va dire. Ça, c'est pas un vrai mensonge. Là où c'est dramatique, c'est lorsque la compétence ne correspond pas à la réalité et que l'entreprise a vraiment un besoin d'un diplôme, d'une expérience. Et là, ça pose un problème.
Sur le continent africain, Verif Diploma, vous êtes implanté, vous avez
On a un bureau à Ouagadougou.
Pourquoi
déjà
Ouagadougou d'ailleurs?
Parce que je connais naturellement ce pays et moi-même, j'ai un ECT burkinabé, donc on s'est implanté depuis.
Un ECT burkinabé, c'est-à-dire?
Non, j'ai une nationalité burkinabé.
Ah, pardon, d'accord.
Je suis vraiment de nationalité burkinabé et donc je connais ce pays depuis longtemps. Donc on s'est implanté en Afrique subsaharienne, qui est effectivement un marché assez important au niveau francophonie. Et donc aujourd'hui, on a souvent des informations à vérifier sur la partie éducation, parce que beaucoup d'étudiants africains viennent quand même en France. On a quand même énormément d'étudiants africains dans notre cursus français. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai besoin parfois de vérifier des informations. Et aujourd'hui, effectivement, aussi des entreprises africaines de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Sénégal, d'Afrique du Sud commencent à nous interroger.
Il y a une prise de conscience de ce côté-là.
Là-bas aussi, mais c'est là-bas ce qui est plus difficile, c'est que je disais, c'était la source d'information et d'avoir la bonne qualité de source d'information.
Évidemment, pour vous, c'est quand même un business. C'est votre cœur de métier, la vérification.
C'est un métier magnifique.
Est-ce que vous n'avez pas intérêt à entretenir une forme de paranoïa aussi, dire que tout va très mal et qu'on a d'autant plus besoin de vous?
En tout cas, nous, dans le monde anglo-saxon, ça s'est beaucoup développé, puisqu'il y a même une association qui s'appelle NAPBS. Mais beaucoup plus développé que c'est en France. Donc effectivement, on espère que le monde français va suivre ce phénomène.
En tout cas, vous y avez intérêt. Vous y avez intérêt. Merci à tous les deux, Emmanuel Chomara, fondateur de Verif Diploma. Merci à vous aussi, Augustin Valero, directeur associé du cabinet de conseil en recrutement. Florian Mancione, Institut, vous étiez à Montpellier. Merci à vous, les voisins, les voisines, pour vos témoignages. Et à toute l'équipe aussi, Éléonore Krenig, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars. Anouk également, pour réceptionner les appels des auditeurs. Pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de l'immigration. Quel rôle pour les diasporas et les communautés d'origine? Émission enregistrée à Bruxelles. Tous vos commentaires sont bien sûr les bienvenus sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, le journal. On se retrouve demain.